on va passer au marché, mais avant de parler des marchés, enfin, c'est les marchés d'ailleurs, avant de parler de la performance des marchés sur la semaine, c'est incroyable, quoi. Les annonces qu'on a eues, donc on a eu le dossier d'introduction en bourse de SpaceX. On parle quand même d'une capitalisation en bourse de 1750 milliards. On pense que ça va aller au-dessus de 2000 milliards. On parle de une levée de 75 à 80 milliards. Je vous rappelle que le dernier record date de 2019. C'était 26 milliards à la société saoudienne Aramco. Bon, c'était une société pétrolière. C'est pas tout à fait la même chose. On parle d'Anthropic, 1000 milliards de dollars. On parle d'OpenAI, 1000 milliards de dollars. Au-delà de tout ça, enfin, moi, j'ai eu un choc et j'en parlais vendredi matin avec Laure Clausier. Franchement, ça m'a fait un choc parce que je me dis, quand je regardais, j'ai appelé une personne de mon équipe, j'ai dit combien on a eu d'introductions en bourse à Paris cette année. Elle m'a dit 2. Et je lui ai dit, c'est qui? Et c'était 2 microcap. Ce qui est très bien, hein, c'est pas du tout. Mais j'ai vraiment le sentiment, alors Anne-Sophie va dire maintenant, vous verrez, ça va aller bien.
Non.
Mais là, que c'est même plus. On est la planète Mars, c'est, je sais pas, un astéroïde, quoi.
Ouais. Ça, c'est
non,
sûr.
Léa.
Mais c'est une évidence.
Mais c'est dingue, quoi. C'est même plus deux marchés différents. Ouais. C'est deux mondes, non?
Ouais. Et ça va ne faire que s'accentuer, puisqu'avec ce type d'introduction en bourse, et en particulier SpaceX, il va y avoir trois effets. Le premier, c'est l'effet flux. Mécaniquement, ça va être une des plus grosses capitalisations aux États-Unis et dans le monde. Mécaniquement, ça va rentrer, même si ça ne sera pas le cas dès juin au moment de l'introduction, dans les grands indices. Donc, mécaniquement, les gestions indicielles qui sont de plus en plus importantes vont rebalancer une partie des flux sur cette société. Donc là, on a un effet amplificateur. Le deuxième effet qui est intéressant, c'est quand même la volonté qu'a eu Elon Musk de faire une introduction en bourse pour le client final, la grande distribution, 20%. Ça justifie une valorisation, en réalité. Ouais. Et ça, c'est extrêmement inquiétant, parce que ouvrir le capital de cette manière-là au retail, avec des valorisations aussi tendues, dans un contexte où, en fait, on n'a pas très bien compris non plus comment l'entreprise
se valorise. Les chiffres sont pas terribles, hein. Je veux dire, c'est des pertes massives. En plus, il a mis quand même tout l'IA à l'intérieur, donc les gens ont l'impression d'acheter des navettes spatiales et des lanceurs, mais en fait, ils achètent son moteur d'IA qui, pour l'instant, n'est pas un carton. Hein.
Eh ben, c'est ce que j'allais dire, c'est le troisième point. Qu'est-ce qu'on finance l'espace, l'intelligence artificielle, on ne sait pas. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet effet mécanique d'introduction en bourse de trois valeurs...
Plus OpenAI, plus Anthropic.
Exactement. Là, vous allez avoir un effet de déversement de flux massif dans les 3-4 mois qui vont suivre, de beaucoup de gestion, y compris européenne, malheureusement, parce que vous n'aurez pas le choix.
C'est flippant, non, Alain, non? J'ai pas, moi, c'est la première fois, j'ai souvent eu cette impression, parce que, bon, évidemment, je travaille un peu aux États-Unis dans l'entreprise américaine, mais là, j'ai l'impression que, on regarde, mais on n'est plus du tout dans la course, quoi.
Ah oui, complètement. Mais alors, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit.
Non, mais c'est intéressant. Non, dites-moi pourquoi vous trouvez. Attendez, je vous prends. Là, c'est vraiment des chiffres là. Vous dites toujours parlons de chiffres et pas simplement de l'impression de on travaille moins, on travaille plus. Je vous donne des chiffres.
Non, mais là, ce sont des chiffres. Et moi, ce que je vous dis, c'est que si on veut les comprendre, juste au lieu de dire c'est énorme, etc., ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il y a derrière. Ouais. Pourquoi il y a ces investissements dans ce secteur-là? Parce qu'il y a des questions de souveraineté par rapport à la Chine. Donc la finalité de tout ça, c'est pas juste de faire de la rentabilité comme on a la vision européenne, etc.
Je peux vous dire que les 20% qui vont acheter des actions, ils n'en ont rien à foutre de la...
Non, on est tout à fait d'accord, mais ça c'est la conséquence. Ouais. C'est la conséquence. Je vous explique pourquoi il va y avoir un mouvement qui va continuer dans ce secteur, qui va être très important sur plusieurs années, quelles que soient les pertes, les concentrations, etc. Parce qu'il y a une question de souveraineté avec la Chine qui est bien au-delà des aspects après dont on parle, etc. Okay.
Mais
donc,
so what?
C'est important d'avoir ça en tête quand on regarde les volumes.
Mais il y a toujours une raison pour faire.
Oui, mais là, c'est une raison qui est assez historique.
OK, mais il n'y avait pas de problème de souveraineté à l'époque de Google, il n'y avait pas de problème de souveraineté à l'époque de Meta.
Beaucoup
d'accord,
moins,
donc, et pourtant moins. Ça a été des cartons absolus, il n'y avait pas de problème de souveraineté.
Oui, mais là, le volume n'a rien à voir parce que la menace, notamment asiatique, n'a jamais été aussi importante.
Je comprends.
Vous parlez de ces milliards de valorisation, pourquoi vous ne parlez pas des 1200 milliards d'excédents chinois qui sont historiques depuis les années 60?
Bah oui,
que l'industrie chinoise, c'est 30% de l'industrie mondiale. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes dans cette situation-là, vous avez des réponses qui, côté américain, où vous avez des dépendances stratégiques qui sont énormes, qui sont en réaction.
Je comprends très bien qu'il y ait des explications et je vous vous remercie de nous les donner. Non, mais elles sont très intéressantes. Mais moi, ce que je constate, c'est-à-dire que moi, je suis confronté à cette situation-là. Je suis un homme de bourse, un homme de marché financier. Mm-hmm. J'ai passé ma vie à faire quelques introductions en bourse. Et là, je vois des trucs. Je me dis, on
des trucs énormes. Et par contre, quand vous regardez hors ces valorisations-là, ce qui se passe dans l'industrie, dans voilà, on va dire l'économie plus classique, après l'effet droit de douane, après les anneaux d'investissement, là, on peut pas dire que ce soit un succès. Donc pour l'Europe,
succès,
comme nous,
vous avez
comme
des capitalisations, mais qui sont monstrueuses. Mais reprenez Walmart.
Pas seulement, regardez hors secteur. Ce que je veux dire, c'est que
Walmart,
si vous regardez,
c'est pas de l'IA.
Si vous regardez l'Union européenne, là-dessus, nous, on n'a pas vocation, vu la course qui se joue, à être là-dedans et de pouvoir concurrencer la Chine, les US sur ces secteurs.
On aimerait juste être un peu dans la course.
L'idée, c'est d'être en effet un peu dans la course, parce que de toute façon, le premier stade est loupé, mais aujourd'hui, on peut l'être dans d'autres secteurs et dans d'autres segments.
Comme quoi ?
Vous parlez de ça, le secteur de la défense, on est nul dans le secteur de la défense, la pharmacie, on est nul. L'énergie décarbonée, on sait que bon, ça a l'air secondaire, mais d'avoir de l'or vert, c'est peut-être un peu essentiel quand le monde entier va s'électrifier.
Mais moi, je veux bien, peut-être mais elles sont où les boîtes aux côtés qui permettent d'avoir ça ?
Alors, moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est quand vous regardez les flux d'investissement, pas seulement les entreprises, mais les flux globaux, qu'est-ce que vous dites du fonds norvégien, qui est le premier fonds souverain, on est d'accord ? Qu'est-ce qu'il investit aujourd'hui en Europe ? Vos amis canadiens, est-ce qu'ils veulent encore toujours investir aux États-Unis ou viennent en Europe. Donc ce que je dis, c'est très bien de dire c'est horrible, on va se suicider demain, mais ce qui est bien, c'est aussi peut-être d'avoir une vision plus de souveraineté stratégique et d'essayer d'utiliser ça pour comprendre
ça change. Je suis d'accord avec vous, c'est intéressant.
Mais c'est pas pour excuser, bien ou pas.
Après Alain, je vous repasse la parole, pardon.
On reste dans un monde ouvert. Le fait que l'on ait des valorisations extrêmement élevées, ça va donner à ces entreprises des moyens financiers hors pair par rapport aux moyens financiers que l'on a ailleurs en Europe.
C'est le cas de Nvidia, c'est le cas de Google, c'est le cas de Meta, c'est le cas de Microsoft, d'Oracle.
Est-ce que l'on peut avoir un mode de financement différent entre deux continents qui sont en concurrence et qui sont en relation l'un avec l'autre? Le mode de financement américain, c'est le marché plus que les banques. Nous, c'est les banques plus que le marché. Ça participe tout de même de cette idée de valorisation, surtout quand il y a des engouements, des rêves peut-être sur certains secteurs.
Oui, c'est peut-être des bulles. On ne dit pas le contraire. Hein.
Oui, ça peut-être. Et puis en plus, il y a le financement des retraites aussi. Le financement des retraites participe de la valorisation des actions aux États-Unis, ne participe pas de cette valorisation. Alors, on peut dire c'est différent, c'est pas grave, nous c'est comme ceci et c'est bien. L'ennui, c'est que quand on est en concurrence les uns avec les autres, on donne une capacité d'action financière, d'achat en fait, énorme chez les Américains et pas chez nous. Et ça, c'est une vraie question.
Alain, je vais vous laisser rebondir, j'avais une autre question à vous poser. Pourquoi aux États-Unis le Graal c'est l'introduction en bourse, même pour un Elon Musk. Il y a déjà Tesla. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre encore de repartir avec une boîte? Bon, il va peser 1000 milliards de dollars. OK. Et on voit que les 10 premières fortunes professionnelles mondiales sont des boîtes cotées en bourse. Pourquoi en France, il n'y a pas ce réflexe? C'est-à-dire, quand on voit des chefs d'entreprise, vous leur parlez de rentrer en bourse, ils vous regardent, ils vous disent, mais non, c'est que des emmerdes, l'administratif, je sais pas quoi.
Il y a deux problèmes. Il y a les contraintes administratives pour.
Elles sont pires aux États-Unis, franchement.
Non, mais si je peux en placer une.
On vous laisse finir.
Les contraintes administratives et le fait d'être visible. En France, quelqu'un qui s'amuserait à introduire ce que fait Elon Musk se retrouverait avec des profits illicites et toute la gauche qui lui tomberait dessus et ça serait insupportable à gérer. Donc je pense que c'est ça le problème. Pour revenir à des choses plus terre à terre, c'est-à-dire la bourse, c'est-à-dire en fait ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'il faut acheter du SpaceX aujourd'hui? Je pense que ça, c'est un sujet de conviction. Est-ce que vous croyez ou pas en Elon Musk sur les 10 ans qui viennent, donc ça j'ai pas d'avis là-dessus. Par contre, il y a deux choses à regarder, je pense, de manière intéressante, c'est tous les fournisseurs, parce que les 80 milliards qu'ils vont lever, les 60 milliards qui vont être levés par OpenAI,
ça va ruisseler,
je pense que ça, il faut quand même se pencher sur la question. C'est pas forcément évident de retrouver les fournisseurs de SpaceX. Oui, il y a Nvidia, il y a des boîtes françaises, il y a STMicro qui est fournisseur, il y a des boîtes autour de la construction, il ouvre une centrale solaire au Texas qui va faire 10 gigawatts de production, donc c'est quand même énorme. Donc là, vraiment des investissements extrêmement importants. Et l'autre problème, ça va être de regarder ces fonds américains, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que vous faites de l'indiciel avec tous les inconvénients qu'il va y avoir avec ce qu'a décrit Léa, mais il y a aussi regarder ce que vont faire les gérants actifs qui vont se retrouver retrouver dans une situation qui ne va pas être simple. C'est-à-dire que si, par chance pour eux, ces titres-là, avant l'introduction, enfin au moment de l'introduction, commençaient à baisser, ben, en relatif au l'indice, ils vont être performants. Et inversement, s'ils commencent eux-mêmes à cavaler, ça ne va pas être simple et ça va être effectivement très important à regarder.
On affiche quand même les valorisations et l'évolution des marchés, donc plutôt pas mal hein, cette semaine, puisque on est aux dernières nouvelles. Hein. Je rappelle qu'on enregistre le vendredi sur des anticipations peut-être d'un accord, mais personne ne sait. Bon, sur l'année, franchement, sur l'Europe, c'est pas terrible. Sur les États-Unis, on est autour de 9%, 9, 10%, 13% pour le Nasdaq. Le Nikkei, quand même, 25% de hausse. Le MSCI World, 8%. Léa, vous voyez quoi, vous, sur la bourse pour les mois qui viennent?
Vous pourriez me faire plaisir. Est-ce que vous pouvez rajouter le S&P Clean Energy, Marc? Parce que vous le verriez.
Le S&P
Clean Energy.
C'est quoi ce qu'il est bien sûr?
Ah bah, regardez-le, vous allez le. Non, mais c'est
Léo,
intéressant
la France
parce
est
que
leader, justement.
Ça va aller exactement. Merci Sophie, ça va aller dans le sens des propos de Sophie, c'est-à-dire que il y a quand même des secteurs en ce moment qui sont en train d'exploser, qui permettent
en France.
Bah oui, nos producteurs d'électricité avec leur mix énergétique.
Dites-le.
Bah oui, je le dis, c'est pour ça. Donc si la prochaine fois l'indice.
Mais parce que dans cet indice-là, il y a beaucoup de boîtes françaises.
Il y a des boîtes internationales. C'est un indice global, hein, mais il y a des boîtes effectivement françaises et c'est principalement des producteurs d'énergie, de la green tech, également des services, comme le disait très bien Alain, qui vont venir sur l'efficacité énergétique des grands industriels et de l'IA également. Donc il faut le rajouter. Alors je me souviens plus de la question, Marc.
Bah, la question, c'est où va la bourse, tout simplement.
Ah ouais. Alors c'est bon. Moi, je trouve que la bourse a rebondi très vite à partir de début avril, quand on a eu une première annonce de cessez-le-feu. Et maintenant, la bourse est plutôt, je dirais, attentiste, elle est atone, la publication des résultats est passée, deux messages. L'Europe, bon, ça va à peu près. Globalement, les publications étaient bonnes. Par contre, les États-Unis, ça va très fort. Donc, je pense que la bourse, elle va aller un petit peu plus vers les États-Unis là à court terme.
Encore.
Bah oui, pour tout ce qu'on vient de se dire,
c'est quand même le cas depuis le début de l'année. Hein.
Potentiellement d'une politique monétaire plus compliquée en Europe, le fait que les États-Unis ont une dynamique extrêmement positive, ces introductions en bourse, tout ça n'est pas très bon. J'en profite pour passer un message parce qu'on parlait effectivement des sujets. Comment on redynamise la bourse européenne? Il va y avoir quand même les réformes des retraites qui vont arriver. Les retraites par capitalisation, les modèles malheureusement nordiques qui ont été mauvais et mal construits au départ, contrairement aux États-Unis qui ont su faire un modèle de retraite captif pour financer leur industrie. Il va falloir sérieusement que l'Europe s'arme d'un modèle de retraite qui reste pour la plupart de ses financements en Europe. Parce que 80% des retraites par capitalisation nordique partent pour les effets qu'on vient de raconter, hein, d'ici à les autres, en dehors de l'Europe et aux États-Unis en particulier.
Alain, la bourse. Après, on parlera des allocs.
Ouais, deux secondes, la bourse. Moi, je pense qu'on va rester sur ce qu'on a connu depuis le début de l'année, c'est-à-dire quelque chose d'assez violent, c'est-à-dire qu'en fait, des mouvements très rapides. Voilà. Alors, ça justifie comment? Pour moi, c'est trois raisons. La première, c'est une forme de hedge, on gère comme les hedge funds, en fait, hein, c'est-à-dire que du levier, des stop-loss. Donc, on prend les mouvements, on fait du momentum très fort. Donc, ça, c'est la première chose. Sur les valos, on regarde les valos comme du private equity, c'est-à-dire qu'en fait, on s'occupe pas de la valo aujourd'hui, on regarde si on y croit pendant 10 ans, donc on achète, on va dire, un peu n'importe quoi pour un gérant classique. Et la troisième chose, c'est la gamification de la gestion, c'est-à-dire en fait, des particuliers, la retail army, hein, tout le monde a chambré les clients privés pendant des années en disant quand ils achètent, c'est trop tard, c'est toujours le mauvais moment.
C'est eux qui font le marché.
Mais en fait, aujourd'hui, ils font le mouvement et en fait, ils investissent des petites sommes sur des calls, hein, c'est complètement dingue. On est aujourd'hui sur des niveaux historique de position en option d'achat. C'est complètement fou. Donc voilà, c'est le marché d'aujourd'hui. Je pense que ça va continuer. Donc
c'est un marché d'amplification des mouvements.
Voilà, c'est assez difficile à lire, mais voilà, c'est le marché qu'on va.
Alors,